Bonsoir à tous, ravi d'être là. Alors je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, de présenter quand même nos trois intervenants. On va commencer avec vous, Nolwenn Buller. Nolwenn Buller, vous êtes anthropologue de la médecine avec une spécialisation en études de genre. Ça tombe bien, on est un peu dans la cible du thème. Et vous êtes maître assistante à l'université de Neuchâtel, mais aussi chercheuse à l'UNIL. Je ne sais pas si vous voulez brièvement un peu parler de votre parcours et votre angle d'attaque au niveau de la recherche. Je vais prendre le micro qui est juste là.
Bonsoir, merci pour cette introduction et pour cette invitation à participer à ce café scientifique. C'est un plaisir pour moi. Donc oui, effectivement, je suis anthropologue de formation. Moi, j'ai travaillé sur la procréation médicalement assistée, donc un autre type de technologie où les normes de genre sont effectivement également présentes. Je n'ai pas directement travaillé sur le digital et mon angle d'approche aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de montrer comment les études de genre peuvent éclairer la question des médias sociaux, du digital, des jeux vidéo. En complément des expériences pratiques présentées par mes collègues.
À mes côtés aussi, Cindy Kregero, DiscuSci en ligne. Alors, Cindy Kregero, vous êtes e-gameuse, ce qui tombe pas forcément sous le sens, ce qui ne va pas de soi. Vous êtes un peu le contre-exemple de la question qu'on pose. Vous allez sur des terrains qui sont plutôt masculins, comme ça, au niveau stéréotypique. Mais du coup, vous avez une expérience à apporter par rapport à ça, à tout ce que vous avez observé. Et vous êtes active dans une association d'e-gamers neuchâtelois.
Oui, complètement. Alors, moi, je suis dans le jeu vidéo depuis toute petite. Ça a toujours été ma passion là-dedans. Et m'investir en tant que femme dans ce domaine qui est justement, comme vous dites, très stéréotypé masculin, ça donne envie de faire bouger les choses comme tout domaine. Effectivement, pour moi, ce soir, mon gros point que je pourrais vous parler, ça sera surtout les femmes dans le jeu vidéo, dans YouTube, dans le streaming. Ça sera d'autres sujets qu'on pourra parler plus précisément si ça vous intéresse. Et également aussi Neuchisport, qui est une association neuchâteloise. Et voilà,
Qui réunit filles et garçons.
Exactement, nous sommes mixtes et avec plusieurs équipes sur plusieurs jeux différents.
Donc vous jouez plus directement autant qu'avant. Par contre, vous êtes coach, hein, vous vous occupez d'une équipe à un haut
Exactement.
niveau quand même.
Oui, du manager d'une équipe sur le jeu League of Legends, pour ceux qui connaissent plus précisément.
Un peu plus lentement pour les vieux comme moi.
Voilà.
Le nom du jeu?
League of Legends.
League of Legends, d'accord. Cindy Kregero, merci en tout cas d'être là. Et enfin, Niels Weber avec nous, rompu à l'art des conférences, paraît-il, parce qu'il a des choses à dire sur ce thème, notamment psychologue, psychothérapeute, spécialisé en hyperconnectivité. Alors là, on va aussi aller un peu aux limites aussi de cette activité en ligne, de ces pratiques en ligne. Peut-être vous présenter, vous êtes aujourd'hui à Lausanne, mais neuchâtelois d'origine.
C'est ça. Bonsoir. Effectivement, j'ai grandi ici à Neuchâtel, à Bôle pour être plus précis. Et puis, j'ai migré à Lausanne pour mes études. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici. Et donc, effectivement, je m'occupe d'hyperconnectivité. Ça veut dire que je travaille principalement avec des gens qui ont des difficultés à gérer les écrans. Alors, ça peut être les jeux vidéo, mais ça peut aussi être les réseaux sociaux, Netflix, YouTube, etc. Et je suis actif aussi dans le domaine du jeu, puisque alors déjà, je suis moi-même joueur, mais je suis aussi président d'une association qui s'appelle Gaming Federation, qui a pour but de promouvoir la culture du jeu vidéo en Suisse et de le faire d'une manière responsable, c'est-à-dire sensibiliser les parents à certains domaines du jeu, mais aussi sensibiliser les joueurs à certaines questions dont le respect de l'équité fait aussi partie.
Merci à tous les trois pour vous être présentés. On va lancer maintenant le sujet. J'ai quelques minutes, je vais essayer d'être le plus bref et le plus percutant possible pour que la discussion parte sur les chapeaux de roue. Alors, tous les jeunes, évidemment, c'est une évidence, mais tous les jeunes nés après les années 90-2000 n'ont pas connu le monde sans Internet, si bien qu'aujourd'hui, une ou un adolescent en Suisse passe en moyenne 4 heures par jour sur Internet pendant son temps libre. C'est deux fois plus qu'un adulte de plus de 40 ans. Et ces chiffres sont tirés d'une étude publiée ce mois-ci par la Commission fédérale de la jeunesse qui s'est penchée ces deux dernières années sur l'influence de la numérisation sur les enfants et sur les jeunes. Alors, parmi d'autres chiffres, il y en aurait pas mal à citer, mais un quart de ces jeunes passent plus de 5 heures quotidiennement en ligne, soit une proportion à peine plus grande que leurs aînés de plus de 40 ans. Alors, plus de 5 heures en ligne, ça arrive aussi aux aînés, mais les jeunes, il y en a une partie, 25%, qui le font. Pourquoi faire? Eh bien, toujours selon cette étude, les ados entre 16 et 20 ans aiment cultiver ou créer du lien, c'est très positif, être en contact permanent, peut-être quelques risques là, avec d'autres personnes. Ces jeunes trouvent grâce aux écrans un bon moyen évidemment de ne pas s'ennuyer, de chasser l'ennui en chattant, en jouant, en écoutant de la musique, etc. Je pense que je ne vous apprends rien. Ils privilégient l'usage de messageries comme WhatsApp, ils consultent les profils de leurs amis, de leurs connaissances sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram ou Facebook. Ils regardent des vidéos sur YouTube, ils jouent aussi bien sûr aux jeux vidéo, on va en parler, et certains même s'aventurent sur des sites d'infos. Et à y regarder de plus près, eh bien, c'est le cœur de notre discussion. Filles et garçons ne font pas tout à fait la même chose. Voilà. Il ressort, et c'est confirmé par d'autres études, notamment en France, que les filles, par exemple, accordent plus d'importance à la communication sur les réseaux, tandis que les garçons préférerait se divertir en jouant, par exemple, aux jeux vidéo. De plus, les jeunes femmes, en termes d'attitude, de réflexivité, réfléchiraient davantage à leurs pratiques numériques, tant en ce qui concerne les bienfaits que les méfaits. Elles seraient donc plus ambivalentes. Les jeunes femmes ressentent aussi plus fortement, selon ces études, la pression d'une connexion permanente à certaines applications, qu'elles auraient tendance aussi, donc une connexion permanente à certaines applications, puis elles auraient aussi tendance à plus se comparer, d'où parfois, selon les comparaisons, un certain mal-être à force de se comparer à d'autres en ligne. Et une étude britannique va même jusqu'à dire que l'utilisation excessive des réseaux sociaux nuit au bonheur de nos adolescents et d'adolescentes. Donc voilà un cadre large posé grâce à une étude que vous retrouvez facilement à la Commission fédérale de la jeunesse. C'est taper sur Google et puis vous tombez quasi tout de suite sur cette étude. Il y a même plusieurs papiers. Ça vaut la peine de s'y pencher. C'est bien vulgarisé. Alors ce constat de départ amène évidemment plusieurs questions. Est-ce que véritablement le genre, être une fille ou un garçon, change la donne dans nos usages numériques, dans les usages des ados? À partir de quel âge ça se joue? Est-ce qu'il y a un âge pivot, ou est-ce que dès la plus tendre enfance, maintenant qu'on voit des bébés déjà scroller des écrans, est-ce que depuis la tendre enfance, on joue déjà sur ce genre? Est-ce qu'ils sont ciblés déjà en tant que filles et garçons? C'est des questions qu'on va se poser. Si on parle de comportement derrière les écrans, est-ce que c'est si ces comportements sont différents, est-ce que c'est parce que c'est des catégories d'adultes immuables dans lesquelles on aime bien, on va dire, encourager les jeunes à suivre? Est-ce que c'est finalement le job des parents et des adultes de mettre les jeunes dans des cases comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment les jeunes qui choisissent d'utiliser les réseaux comme on pense qu'ils le font? Donc on verra dans les jeux vidéo aussi s'il y a des stéréotypes. Bah, vous avez dit qu'il y en avait, alors on verra lesquels. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est important de réfléchir à cette question de genre aussi? Là je m'adresserai à Nolwenn Buller. Pourquoi la variable du genre est éclairante? Qu'est-ce que ça dit de notre société en fait, hein, le fait qu'on voit des pratiques différentes dans la manière qu'a notre société de thématiser le genre? Et puis, est-ce que filles et garçons sont égaux devant les risques d'Internet? On verra lesquels, quels risques. Est-ce que cette connexion, qui peut être intensive, voire excessive, touche de la même manière les filles ou les garçons? Voilà. Et puis, une autre question, toujours par rapport au genre, qu'on pourra se poser, c'est si les usages numériques des filles et des garçons, quelque part, creusent aujourd'hui les inégalités de demain par rapport aux compétences numériques. On sait que maintenant, on n'y échappe plus pour l'avenir professionnel. Donc voilà, en vrac, les questions qu'on va tenter de se poser, que vous allez poser. Alors, je vous mets pas les questions en bouche, mais voilà les questions qu'on peut se poser liées à cette thématique, en tout cas celles qui me sont venues à l'esprit après avoir échangé avec vous. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Cindy Kregero. Alors, vous connaissez très bien le milieu d'Internet, le milieu du jeu vidéo. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que filles et garçons ont une manière différente d'utiliser Internet?
Oui, tout à fait. Les filles vont, pour parler jeux vidéo, les filles vont avoir plus de mal à s'assumer. Enfin, c'est le ressenti que moi, j'ai eu en grandissant dans les jeux vidéo. Il m'a fallu un bon moment avant de pouvoir dire à mes amis autour de moi que le dernier Mario, c'est trop bien, tout bêtement.
Donc vous êtes l'exception qui confirme la règle?
Oui, je dirais, oui, je suis un peu un cas à part, qu'en tant que femme, c'est moins facile de dire qu'on joue aux jeux vidéo, car pour moi, c'était dans l'image qu'on m'avait mis dans la tête, que les jeux vidéo, c'est plutôt quelque chose de garçon, de puéril, de si on joue, c'est pas forcément pour s'occuper intelligemment.
C'était... Alors comment vous êtes tombée dans la marmite ?
Des frangins, simplement des grands frères qui donnent la manette, qui montrent les jeux, que si tu peux faire des jeux, en avançant dans le jeu, tu peux apprendre de nouvelles choses, tu peux avoir de la dextérité. C'est, ils m'ont montré d'autres avantages que des adultes où l'entourage ne précisait pas, car ils ne connaissaient pas, simplement.
Mais en tant que SCUCI, est-ce que vous êtes senti bien accueilli dans ce monde virtuel des jeux vidéo, apparemment réservé aux garçons ? Est-ce que vous êtes senti bien accueilli ou au contraire, est-ce que vous avez vu, tiens, là, je suis en train vraiment d'aller à contre-courant ?
Alors oui, au début, c'est très très dur quand on passe en mode dans son salon et en mode en ligne, quand on va se connecter pour jouer avec d'autres personnes. C'est beaucoup plus compliqué en tant que femme, parce que simplement, quand on commence à parler sur un jeu vidéo, tout de suite, les autres joueurs sont là, oh mon Dieu, une fille, attention, on va devoir la protéger ou on devra l'accompagner, parce qu'elle ne pourra pas se débrouiller seule, et c'est plutôt le genre de remarque que facilement pouvait me tomber dessus. Donc j'essayais de soit ne pas parler, utiliser des pseudonymes pour cacher mon genre, pour pas dire que j'étais une fille, pour pas qu'il y ait justement cette différence qui soit marquée. Moi, en tant que joueuse, je joue aux jeux vidéo comme les hommes, j'ai les mêmes réflexes qu'un homme.
Vous avez témoigné dans la presse au mois de mars, sauf erreur, et apparemment les intentions, alors vous parliez de protection, elle n'est pas capable de se débrouiller toute seule, mais parfois les intentions sont moins louables, ça montre parfois aussi la violence que ces stéréotypes de genre peuvent... peuvent créer.
Oui, complètement. Quand on joue avec des jeux, on peut tomber avec des personnes de tout âge. Et quand on tombe avec des hommes un peu plus âgés, ils vont facilement nous dire qu'en tant que femme, qu'est-ce que je fous là ? Je ferais mieux de retourner dans ma cuisine, pour parler très crûment, hein, mais que je n'ai pas ma place sur les jeux vidéo et que c'est le monde réservé aux hommes et que je devrais aller faire mon ménage, ma vaisselle et ne pas m'aventurer ici pour les embêter, quoi.
Est-ce que vous avez vu une évolution, hein ? Vous avez quand même joué plusieurs années. Vous dites que vous jouez depuis que vous êtes toute petite. Vous êtes aujourd'hui une adulte. Est-ce que vous avez vu une évolution par rapport à ça ?
Oui, tout à fait. Maintenant, je me fais moins facilement... Ça arrive toujours. Mais je me fais moins facilement agresser si je parle dans les jeux vidéo comme quoi je suis une fille, que je devrais partir. Je suis un peu mieux accueillie. Ça, c'est sûr.
Et les filles vous ont suivi ? Vous avez réussi à embarquer d'autres copines dans l'histoire ?
Alors, ça, c'est toujours plus compliqué. Oui, maintenant j'en parle plus facilement avec mes amis, avec mon entourage. Et même maintenant, c'est des copines qui viennent vers moi, qui me disent « Ah, le dernier jeu vidéo là que j'ai essayé, il faudra que tu regardes, c'est trop bien. » Puis petit à petit, oui, on commence à se faire un groupe de filles qui jouent et qui s'assument dans ce domaine-là.
Niels Weber, donc, vous parlerez de votre expérience de joueur aussi, mais déjà, simplement sur le constat de base de départ, les filles et les garçons n'ont pas tout à fait la même utilisation d'Internet. En gros, si on résume, les filles, elles communiquent, les garçons, ils se divertissent. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi en tant que psychologue ?
Je dirais que ce serait un petit peu moins catégorique dans le sens où je pense que tout le monde fait un peu de tout. Mais ce que j'observe, en tout cas du point de vue de ma clinique, c'est que quand les gens consultent, au niveau quand on est dans des excès justement, les garçons ont tendance à surinvestir les jeux, tandis que les filles ont tendance à surinvestir les réseaux sociaux. Mais après, il y a toujours un élément qui est le signal d'alarme, c'est toujours... ça peut être d'abord les réseaux sociaux ou d'abord les jeux vidéo, mais après quand on creuse, on voit que finalement tout le monde fait un petit peu tout et puis que d'imaginer qu'il y a un mur qui sépare les réseaux sociaux des jeux vidéo par exemple, c'est une illusion. Ça. Aujourd'hui tout est connecté forcément, donc on passe de l'un à l'autre aisément.
Et en allant même plus loin, c'est vous qui l'avez fait quand on a préparé cette discussion, jouer aux jeux vidéo ou aller sur les réseaux sociaux, quelque part ça participe à un même geste, celui de créer du lien ou de rencontrer.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque fois que je questionne les patients qui sont chez moi et que je leur demande mais finalement pourquoi tu es sur les réseaux sociaux, pourquoi tu utilises ce jeu, et c'est ce qui ressort aussi de l'étude James qui mesure les comportements des adolescents entre 14 et 19 ans en Suisse, ce qui ressort en numéro 1, c'est la raison pour laquelle je suis sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, c'est être en contact avec les autres. Donc il y a essentiellement cette recherche de lien, cette recherche de contact, de manière d'échanger avec d'autres personnes, et que quand on parle de réseaux sociaux, ben, dans réseaux sociaux, il y a déjà le terme social, donc c'est le but premier des réseaux sociaux, c'est d'interagir, tandis que le but premier des jeux vidéo, c'est de jouer. Mais on sait que le jeu en soi est une activité sociale. Il y a certains jeux où on joue tout seul, effectivement, mais la plupart des jeux se font avec un adversaire, des jeux vidéo ou des jeux non vidéo se font avec un adversaire ou avec un coéquipier. Donc l'activité de jeu est une activité sociale aussi. Donc même les garçons adolescents avec lesquels je travaille, finalement, utilisent le jeu vidéo de la même manière que les filles peut-être utilisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire être en contact avec les autres.
Filles ou garçons passent du temps, hein, avant même de détailler si c'est des filles ou des garçons, tous passent du temps sur les réseaux. Vous parlez d'hyperconnectivité et d'excès, en tout cas ça vous préoccupe en tant que thérapeute, mais est-ce que d'une manière générale, vous avez l'impression que les usages numériques, filles ou garçons, sont trop poussés, trop intensifs ? Est-ce que vous y voyez un excès général ?
C'est une vaste question parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour définir ce qui est excessif, c'est essentiellement une question de représentation. Si je demande aux adolescents avec lesquels je travaille, est-ce que pour toi c'est trop ? Leur première réponse, c'est non. Non, ça va bien, fichez-moi la paix, tout ira bien, laissez-moi jouer et ça se passera très bien. Tandis que si je demande aux parents, pour eux, c'est catégorique, oui, c'est trop. Puis après, en creusant... On voit qu'on peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire du côté des parents, finalement, ils vont dire oui, bon, ben, c'est vrai que pendant les vacances, il peut jouer un peu plus, c'est pas grave. Ou même du côté des adolescents qui vont dire oui, je sais que c'est vrai, je suis un peu trop dessus, on me l'a déjà dit. Donc finalement, c'est vraiment une question de représentation.
Nolwenn Buller, ça vous étonne de voir, de constater en lisant des études que les filles passent plus de temps à communiquer sur les réseaux et les garçons à jouer, etc. Qu'on thématise sur le genre en matière de jeux vidéo chez les jeunes. Est-ce que pour vous, c'est une variable explicative pertinente ?
Pour répondre à la première question, est-ce que ça m'étonne ? Pas vraiment. Dans un sens, on peut faire l'hypothèse que l'espace digital, donc des médias sociaux, des jeux vidéo, il reflète quelque part les rapports sociaux de genre qui sont présents dans la société. Il va refléter certaines inégalités ou certaines normes qui sont présentes aussi dans d'autres espaces. On peut faire l'hypothèse que cet espace digital est un lieu où se reproduisent aussi, contribue à maintenir certaines inégalités et différences, mais qu'il contribue aussi ou qu'il constitue plutôt un espace de négociation, un espace dont les individus peuvent s'emparer pour subvertir certaines normes et créer des possibles au niveau de la construction de leurs identités sexuées. Donc, en études genre, on a développé le concept de socialisation différenciée, par exemple, qui a été développé pour décrire tous les processus par lesquels les individus ils acquièrent leur identité sexuée, par les processus par lesquels les individus sont façonnés, si vous voulez, conditionnés. Ils apprennent à se comporter comme des garçons et des filles selon les normes dominantes dans notre société. Et effectivement, les études que j'ai pu lire montrent que l'espace digital tend à reproduire, enfin, ou participe de cette fabrication. On peut rebondir peut-être sur l'exemple des jeux vidéo. Là, je vais me baser sur les résultats d'un travail de mémoire que j'ai pu expertiser, qui s'intéressait aux pratiques de l'e-sport, donc vraiment un domaine de jeux vidéo très compétitif, et où on peut justement faire des parallèles avec d'autres domaines où il y a beaucoup de prestige en jeu, beaucoup de compétitivité comme du sport de haut niveau ou des mondes professionnels ou des carrières. Et ce que cet étudiant dans son travail montrait, c'était à quel point cet univers de l'e-sport était profondément sexiste. Il se prétendait mixte ou il se voulait mixte, mais dans les pratiques, c'était extrêmement difficile pour les filles de pouvoir s'imposer. Elles s'exposaient, disons, à des formes de harcèlement, de violence verbale, une certaine disqualification. Et elles étaient soumises à une sorte de double injonction où on leur demandait à la fois d'être ultra performantes, mais pas trop, parce que ça viendrait menacer quelque part la virilité ou la masculinité.
Et sur cet aspect, Cindy Gregero, c'est vraiment ce que vous avez ressenti et c'est peut-être ce qui explique que vous jouez moins.
Alors non, le fait que je joue un peu moins n'a rien à voir avec ça, mais ça me fait sourire à chaque fois quand j'entends qu'un homme a peur de se faire battre par une fille au jeu vidéo, parce que je comprends pas du tout ce problème.
Ça n'arrive jamais.
Alors loin de là, justement. C'est ce qui fait plaisir quand on voit ces hommes qui font un peu leur petit kéké, t'es une fille, t'inquiète pas, quand tu veux, un V1 et tout ça. Et qu'elle vient, puis elle le massacre. C'est juste incroyable. Ça fait du bien de montrer que on a besoin d'aucune compétence physique. Donc, pour une fois, dans un sport, même électronique, on a les mêmes compétences et qualités qu'un homme. On n'a pas besoin de muscles, qui est leur, disons, seul avantage en sport.
Mais il y a une nuance à mettre quand même dans les jeux vidéo, restons-y, c'est qu'il y a un moment où vous avez décidé, vous, de passer devant la caméra. Vous avez décidé de montrer comment vous jouiez. Les jeunes connaissent ça, mais vous êtes face à la caméra et vous expliquez pendant que vous jouez. On voit votre visage, vous commentez votre partie. Et puis, du coup, vous vous affichez au grand jour. Est-ce que ça, ce geste-là, a changé quelque chose dans la manière dont vous avez été perçue en tant que fille qui joue aux jeux vidéo ?
Pour parler en temps, pour simplement commenter mon jeu, non, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Après, il y a toujours les clichés aussi. Bah, sur Internet, en tant que femme, il faut, pour réussir, montrer sa poitrine, montrer ses formes. C'est des gros clichés qu'il y a sur Internet, que si tu es une femme, tu réussis, c'est parce que tu as montré tes seins, tu as montré ce genre de choses pour te faire démarquer. Après, pour parler en tant que commentarie comme sportive pour le foot, j'ai également fait des commentaires de jeux vidéo, de matchs. Et là, non, les hommes, au début, ils peuvent être un peu plus réticents, dire comme quoi une femme, qu'est-ce qu'elle va en savoir plus que moi sur ce jeu vidéo. Et quand ils voient que nous avons les connaissances, c'est simplement lire un livre, apprendre le jeu et connaître le jeu pour pouvoir en parler clairement. Et je trouve qu'ils acceptent facilement qu'une femme peut en savoir autant qu'eux sur un domaine qui n'est pas majoritairement féminin.
Niels Weber, le jeu vidéo offre quand même, d'une certaine manière, une forme d'anonymat. Ce n'est pas dit qu'on sache tout de suite si c'est un jeune, une jeune, un vieux, une personne plus âgée. Est-ce que vous avez assisté à des scènes gênantes à ce sujet-là ? Ou au contraire, il y a une sorte d'impunité assez agréable qui fait qu'on peut, une opportunité de rejouer un peu les règles ?
Je dirais que les espaces numériques et virtuels, plutôt numériques et pas virtuels justement, l'espace numérique permet de jouer un peu avec les codes. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans une partie d'un jeu, comme tu le disais avant, tant qu'on ne donne pas son nom, tant qu'il n'y a pas la voix, on n'entend pas la voix, ben finalement, les autres joueurs, on ne sait pas qui ils sont. Si on prend l'exemple de Fortnite, qui est le jeu le plus joué actuellement, il y a 100 joueurs parachutés sur une île. Si je joue tout seul, j'ai aucune idée de qui sont les 99 autres joueurs et je ne sais pas du tout si parmi eux, il y a des hommes, des femmes, des Européens, des Français, des Suisses, enfin, je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est leur avatar. Et ça, c'est un point que je trouve extrêmement intéressant parce que d'un point de vue sociologique, déjà, ça nous permet d'étudier d'autres formes d'interaction où du coup, on gomme certaines de ces différences-là. Mais surtout, d'un point de vue thérapeutique, moi, ça m'intéresse énormément de savoir à quoi jouent mes patients et quel genre d'avatar ils incarnent. Est-ce que, justement, ils incarnent des avatars qui leur ressemblent ou, à l'inverse, des avatars complètement différents ? Et ça, alors, dans des jeux comme Fortnite, ça a peut-être moins d'importance, mais dans des jeux qui impliquent un rôle, qui impliquent d'incarner un rôle, c'est extrêmement instructif, de mon point de vue de thérapeute, d'aller chercher en fait quel rôle ils sont en train de jouer. Et alors bien sûr, il y a des différences techniques qui peuvent être intéressantes, où j'avais un adolescent qui me disait que lui, il jouait que des personnages féminins dans Fortnite parce que la hitbox, c'est-à-dire la zone sur laquelle on peut tirer, serait plus réduite avec les personnages féminins qu'avec les personnages masculins. Et là, on est dans une considération purement technique, mais après, on peut aller chercher plus loin. Qu'est-ce que ça représente d'incarner un personnage féminin dans un jeu ?
Nolwenn Buller, là, ça casse les codes. On détourne finalement les clichés du genre.
Exactement. C'est le digital, justement, cet espace-là offre un espace de subversion de certains codes. Après, j'aimerais faire toujours à ce travail de l'étudiant qui avait étudié justement la pratique du gender swapping, ça s'appelle, comment on adopte un avatar qui ne correspond pas forcément à son identité sexuée dans la vie quotidienne et qui montrait toute l'ambiguïté de ça. En effet, les hommes qui adoptent un avatar féminin le font généralement pour des raisons stratégiques, alors que pour les joueuses, au fait, elles adoptaient un avatar masculin plutôt pour se protéger au fait de formes de protection, enfin voilà, de formes de harcèlement qu'elles expérimentaient par ailleurs dans le jeu. Ou alors, quand il y a des jeux en équipe, ce qu'il avait pu identifier, c'était comment, quand un avatar féminin est choisi par un homme, au fait, c'est en raison des qualités de stratégiques que ça lui permet de faire dans le jeu, alors que pour les filles, c'est plutôt parce qu'on les met dans ce rôle-là, parce qu'on considère qu'elles ne sont pas aptes à avoir un autre rôle. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez expérimentées, mais en tout cas, lui, il avait identifié ces sortes d'ambiguïtés.
Pour répondre directement à ce point-là, effectivement, pour reprendre le jeu dans lequel je suis maître, disons, pour League of Legends, En tant que femme, on est très facilement catégorisé en tant que personnage de soutien. On est une femme, on ne va pas être la personne qui va faire les dégâts, on va être le support de l'équipe, qui va donner les soins, les boucliers, qui va protéger ses mates, ses coéquipiers. Et ouais, on est bonne à soutenir et à support pour que monsieur...
Ça rejoint ce que soulignait Nolwenn Buller, à savoir que les stéréotypes de la vie courante dans la société se reproduisent aussi dans le monde numérique. Niels Weber, quand vous êtes en prévention dans les écoles ou quand vous parlez de cette problématique, qu'est-ce que vous faites pour essayer de nous expliquer ça, de parler aux parents par exemple ou aux cercles extra-familiaux pour qu'ils essayent d'aller au-delà de ces clichés, d'encourager justement les jeunes à dépasser ces représentations ou du moins à en être conscients?
Déjà, je trouve ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est que quand je fais des interventions dans les écoles pour parler de numérique, de jeux vidéo ou de réseaux sociaux, quand je demande qui est-ce qui joue, tout le monde, tous les garçons lèvent la main, aucun doute là-dessus. Puis ensuite, quand j'interroge les filles, je leur demande, mais vous jouez pas. Et alors, soit comme tu le disais, c'est quelque chose qu'elles avouent pas forcément, ou alors c'est parce que elles jouent moins puis qu'elles ont juste un jeu sur leur smartphone de temps en temps. Ce qui veut dire que pour les garçons, le fait de jouer, d'être un joueur, est revendiqué comme une composante identitaire, tandis que pour les filles, c'est plus vu comme un passe-temps, un hobby. Puis du coup, il y a moins besoin de l'affirmer ou peut-être c'est plus caché. Et il y a un exercice que je fais assez régulièrement dans ces ateliers-là, dans les écoles, c'est d'amener des images tirées de plusieurs jeux actuels et de les disposer devant les ados, puis leur demander ben, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ça ne met pas long jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui dise « mais en fait, il n'y a que des mecs ». Et on sait qu'actuellement, en tout cas jusqu'à très récemment, la plupart des jeux vidéo mettaient en scène des personnages masculins, et qu'on sait que sur ces, allons, disons, 2-3 dernières années, il y a un effort qui est fait, puisqu'on voit de plus en plus de jeux qui proposent des personnages féminins et des personnages intéressants, en plus, qui plus est. Mais on reste dans des stéréotypes qui sont extrêmement forts. C'est-à-dire même si on a une majorité de personnages masculins et quelques personnages féminins intéressants, dans les deux cas, ces personnages-là correspondent à des stéréotypes qu'on retrouve partout ailleurs, au cinéma, à la télévision, dans les magazines de mode, etc. On a toujours le même genre de type de héros.
Nolwenn Buller, ça pose problème, hein, ces représentations qui se reproduisent aussi dans le numérique, parce que ça peut, quelque part, engager les discriminations futures.
Effectivement, en étudiant, on problématise beaucoup la question des différences qu'on observe entre les hommes et les femmes, ou les garçons et les filles, justement en raison des inégalités qu'elles tendent à reproduire. Mais j'aimerais continuer aussi sur les marges de subversion. On voit aussi, par exemple, là je sors de l'exemple du jeu vidéo, mais un autre exemple que j'ai pu identifier, c'est ce qui concerne toutes les pratiques de sexting, ou de se mettre en scène, ou d'échanger au niveau plus sexuel, ou d'échanger des messages sexuels, et qui montrait au fait comment socialement les filles, elles sont plutôt vues comme dans des rôles très passifs au niveau de la sexualité, et tout à coup comment le digital leur permet aussi d'affirmer des autres formes d'agentivité ou d'être actrice, se positionner différemment par rapport à ça. Voilà, on peut, mais en même temps avec tout le risque que ça reproduise aussi et qu'elles soient plus exposées et réduite encore, on va dire, à leur corps.
Niels Weber, quand on parle de sexualité et d'appropriation identitaire, y compris sur ces questions, le rapport au corps au numérique, est-ce que quand on parle d'excès lié aux pratiques numériques, ça occupe un grand rôle dans vos consultations ?
Oui, c'est une des deux notions d'excès. C'est-à-dire que quand il s'agit de garçons, on est plus inquiet du temps qu'ils vont passer sur l'écran, donc sur les jeux vidéo. Donc là, généralement, on consulte un psychologue parce qu'on suppose une soi-disant addiction. Mais de l'autre côté, l'inquiétude concernant les filles va plutôt se tourner du côté est-ce qu'elles ont posté des choses compromettantes ou est-ce qu'elles sont en danger sur Internet. Donc ça, c'est une préoccupation parentale.
Voilà, c'est les parents, hein, qui donnent l'impulsion.
C'est ça. Donc c'est pour ça que dans mes consultations et chez mes collègues aussi en reste de la Suisse, on a la même observation, c'est qu'on a pratiquement qu'une population masculine, puisque le signal d'alarme numéro un de l'excès, c'est l'échec scolaire. et que du coup on considère que si ce garçon est en échec scolaire, c'est qu'il a passé trop de temps sur les jeux vidéo. Et que de l'autre côté, les filles ont tendance généralement à maintenir le niveau scolaire, même quand elles ont des difficultés. Du coup, il n'y a pas cette inquiétude. Donc on ne se dit pas, tiens, il y a un excès, on va aller consulter aussi. Donc on reste dans une inquiétude qui est figée sur les jeux vidéo et qui néglige un petit peu la question des réseaux sociaux.
Est-ce que vous voyez une différence dans la manière de le vivre ? Ces études pointent du doigt le fait que les filles ressentent plus durement la pression de cette connexion intensive. Est-ce que ça, dans vos consultations, vous le repérez aussi ?
Oui, mais de nouveau pas directement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher un petit peu. C'est-à-dire quand moi je travaille avec toute la famille, qu'on nous dit d'abord, voilà, mon fils joue trop aux jeux vidéo, d'accord, mais moi j'aimerais aussi savoir comment ça se passe pour vous, les parents, et pour la sœur, par exemple. Et c'est à ce moment-là que les parents vont dire, mais c'est vrai qu'elle aussi passe beaucoup de temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, et qu'on va s'interroger sur ses pratiques à elle. Mais jusque-là, c'est lui qui était le patient désigné, c'est-à-dire celui qui attire l'attention sur le dysfonctionnement. Et à ce moment-là, il y a ces éléments qui peuvent ressortir de cette pression de se conformer à une forme d'image. Et puis, comme je disais, si les filles ont tendance à surinvestir les réseaux sociaux et les garçons à surinvestir les jeux vidéo, on sait que la question des réseaux sociaux tourne beaucoup autour de l'image et de l'image qu'on dégage vis-à-vis des autres. Donc forcément, il y a une intériorisation des clichés qu'on voit aussi se multiplier sur les réseaux sociaux, qui est peut-être potentiellement plus difficile à gérer du côté des jeunes filles.
On va vous passer la parole pour vos questions. Peut-être une dernière question. Vos parents, en fait, comment ils l'ont vécu ? Comment ça s'est passé avec eux quand ils ont vu que vous mordiez à l'hameçon des jeux vidéo ? Est-ce qu'ils se sont fait du souci ou ça allait tellement bien à l'école qu'ils vous ont foutu une paix royale ?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de facilité à l'école. Donc, pour ça, oui, ils ne m'ont jamais mis la pression ou quoi que ce soit. Mais ayant trois frères, ils ne pouvaient pas vraiment me dire quoi que ce soit vu qu'eux, ils étaient dedans. Heureusement, ils ne m'ont pas dit « Ah non, ça, c'est touche pas, c'est à tes frères et ça, c'est... va jouer avec tes poupées. » Non, ils ont été très conciliants avec ce genre de choses. Ils étaient très ouverts. C'est vraiment un plus en tant qu'enfant de se sentir quand même soutenu dans un domaine qui pouvait être garçon.
Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'au dehors des jeux vidéo, mais à votre rapport à Internet, en tant que fille, vous avez une manière peut-être différente de ressentir cette pression de la connexion permanente ? Ou est-ce que c'est une donnée qui change rien, qu'on soit une fille ou un garçon ? Quelle expérience vous avez par rapport à ça, ou les discussions que vous avez pu avoir avec de jeunes adultes ?
En tant que jeune adulte, j'ai toujours été très connectée, que ce soit jeux vidéo ou réseaux sociaux, donc je pense que je fais un peu du 50. Non, j'exagère, je suis vraiment plus jeux vidéo que... Je vais dire 50-50, mais c'est impossible.
Oui, est-ce que ça vous parle le fait que les filles sont un peu plus vulnérables par rapport à la connexion permanente parce qu'elles sont plus ambivalentes, elles ressentent plus les méfaits, les bienfaits ? Est-ce que vous aussi, la réflexion sur vos usages prend une part importante dans votre quotidien ? Vous vous dites, tiens, là, il ne faut pas que j'aille trop loin, il faut que je fasse attention ou...
Oui, voilà. Je pense qu'en tant que femme, on a plus une pression des réseaux sociaux de pouvoir montrer qui on est, comment on est. Et là aussi, je ne serai pas forcément un bon exemple pour répondre, vu que moi, je m'en fous. Ça me passe mes royales au-dessus. Donc, qu'on me dise que je fais trop d'une chose ou trop peu d'une autre, voilà, tant mieux. Ce n'est pas ma place, je l'ai choisie. J'irai là où je la souhaite. Et en tant que jeune adulte, ça se précise de plus en plus. Maintenant, on ne pourra jamais m'interdire de jouer aux jeux vidéo parce que je suis une femme ou me dire que je suis trop sur les réseaux sociaux parce que je suis une femme aussi.
Merci pour ces premiers tours de table. Je vous propose maintenant à vous de poser des questions, maintenant que vous avez mieux cerné un peu d'où parlent nos intervenantes et intervenants. Je vous laisse prendre le relais. La première question est toujours difficile, mais je sens qu'elle vous brûle les lèvres. Et si elle vous... Oui, ah.
Question pour M. Weber. J'ai eu l'occasion de vous entendre à une conférence au Londres. Et là, vous aviez davantage présenté la partie thérapie. Je découvre aujourd'hui que vous êtes un grand joueur. Et j'aimerais savoir, ce n'est pas forcément au niveau des genres, mais pour vous, comment être crédible, ne pas être addict et en même temps thérapeute ?
Oui, c'est une excellente question, merci. C'est en fait ce qui m'intéresse, c'est la construction de l'alliance. La construction de l'alliance, c'est de voir comment est-ce que, en tant que thérapeute, je peux entendre toutes les personnes qui sont en face de moi et prendre en considération le point de vue de chacun. Si je vous donne un exemple assez concret, généralement, ce qui se passe, c'est les mamans qui m'appellent. C'est les mamans qui disent, voilà, je suis inquiète pour mon fils, et moi, je dois demander, mais est-ce que vous êtes la seule à être inquiète? Puis là, elle me dit, bon, le papa, ça va, lui aussi, il joue, donc il s'inquiète un peu moins. OK. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une détresse qui s'exprime, en tout cas une souffrance qui s'exprime et qu'il faut la prendre en compte. Donc moi, je prends tout le monde dans mon bureau, dans mon cabinet. En gros, les parents me disent, voilà, c'est notre fils, il est cassé, il faut le réparer. Moi, je dis, super, venez tous, on va en discuter. Puis non, non, c'est lui qui a un problème. Ouais, très bien, venez tous, on va voir. Et puis, généralement, donc les parents, le père finit aussi par dire, oui, moi, ça m'inquiète aussi un petit peu, mais vous savez, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça. Donc, c'est aussi voir comment on peut responsabiliser le papa dans ces conditions-là. Et puis, les adolescents, ils arrivent comme ça. Les bras croisés, avec aucune envie de parler, en disant, de toute façon, vos trucs de psy, ça ne m'intéresse pas. Comme je disais avant, c'est fichez-moi la paix, laissez-moi jouer. J'ai envie de participer à la Coupe du Monde de Fortnite, vous ne comprenez rien. Puis à ce moment-là, je commence à leur dire, OK, bah, alors, t'as participé à la Coupe du Monde de Fortnite, t'as été bien placé, tu joues seul ou à deux. Puis là, les bras, ils se décroisent. Et puis, l'adolescent dit, ah, mais vous comprenez de quoi je parle? Je dis, ouais, vas-y, raconte-moi. Et régulièrement, ça facilite la discussion parce que ces adolescents-là trouvent une oreille qui comprend de quoi ils parlent. Donc pour moi, c'est hyper important d'être le plus informé possible de ce qui se passe actuellement dans le monde des jeux vidéo. Alors moi aussi, j'ai moins le temps de jouer qu'avant, mais ça me permet de créer cette alliance-là. Et puis, il y a quelque chose que je trouve frappant, c'est régulièrement des ados qui m'expliquent ce qu'ils font dans le jeu et ils s'arrêtent au milieu d'une phrase en disant « mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas normal. Il y a un truc, c'est pas net. Normalement, de parler avec des adultes de jeux vidéo, ça se fait pas. » Puis pour moi, ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'on doit parler de jeux vidéo, on doit parler de réseaux sociaux, on doit parler de ce qu'on fait sur l'écran, sur ce qui se passe sur l'écran, mais sur ce qui se passe aussi autour. Donc, c'est un moyen pour moi d'ajouter une forme de crédibilité pour répondre à votre question, justement, du côté de l'adolescent, mais d'être tout à fait à l'écoute de la demande des parents et ne absolument pas négliger cette souffrance-là. Pour moi, des parents qui en ont marre de devoir rappeler leurs enfants 20 fois pour venir à table, et puis ça peut être plus que 20, c'est suffisant pour dire « il y a un problème, il faut qu'on en discute ». Il n'y a pas besoin d'être dans des critères d'addiction pour dire « en fait, il y a un souci, il faut qu'on mette ça sur la table ». Donc ça me permet à la fois d'être en alliance avec l'adolescent, mais aussi en alliance avec les parents, pour dire « en fait, votre inquiétude, elle est légitime, et puis on doit travailler. Vous avez raison de vous poser des questions sur la place des écrans dans votre famille, et on doit mettre ça sur la table ». Est-ce que ça répond à votre question ?
On a l'impression que les parents se posent beaucoup de questions sur leur enfant, mais est-ce qu'ils s'en posent suffisamment sur eux-mêmes ? Parce qu'il ne faut quand même pas croire que ce sont que les enfants qui sont derrière leurs écrans. Les parents aussi les poussent peut-être à être dans ce rôle. Quel est votre avis à tous sur cette question ?
Je peux commencer, mais... en tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir, c'est que les parents jouent un rôle dans les activités de loisirs, dans ce qui détermine, par exemple, les activités de loisirs, et que, de façon assez tendancielle, après, je ne sais pas si c'est vous qui êtes plus dans les pratiques, mais que les pères, alors que les mères sont généralement en charge des tâches éducatives, c'est les pères qui s'occupent de l'initiation aux jeux vidéo. Et ce qu'on observe dans les familles généralement, mais de nouveau après avoir dans les pratiques à nuancer, c'est que les pères ont tendance à initier leurs fils à certaines activités et les mères à d'autres activités. Et typiquement, les garçons sont initiés aux activités de jeux vidéo digital. Après, on voit aussi des marges de transgression, par exemple, quand un père crée un lien privilégié avec sa fille pour l'initier, ou un grand frère, comme ce que vous mentionnez tout à l'heure, après avoir comment sont négociées ces sortes de transgressions de l'ordre du genre.
Alors, pour compléter ce que vous dites, c'est très le modèle familial que nous avons, que monsieur fait ses tâches qu'il a et que madame s'occupe du reste.
Chez papa et maman, donc.
Oui, de l'iménage, il me semble, en général. On a très souvent cette image-là que monsieur rentre du travail, amène le salaire et madame va s'occuper du ménage. Et heureusement, ce genre de mentalité évolue Et pour la même chose, pour l'image que c'est le papa qui se détache du problème de mon fils joue aux jeux vidéo, je ne vois pas le problème, c'est le fait que les parents ne sont pas intéressés, ne connaissent pas forcément le jeu vidéo. Quand on leur demande de nous citer un jeu vidéo, ils ne vont pas savoir que Mario, ils ont très certainement joué, même les parents d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Mario ou Zelda, c'est des jeux très grand public, très Nintendo, et du moment qu'on parle Nintendo, tout le monde va connaître. Mais pour certains, ça n'est pas un jeu vidéo, c'est juste un moment familial. Et je pense que c'est ce manque d'information que les parents ont de bien cibler ce qu'est jeu vidéo et oui, de savoir comment apprendre à gérer quand leur enfant joue aux jeux vidéo. Savoir mettre les limites, savoir dire que c'est comme un sport, la même chose.
Oui, bien sûr. Nils Weber, il y a un décalage, un gap entre intergénérationnel, entre parents et enfants, les parents qui, pour certains, ne comprennent plus les usages de leurs enfants et du coup, mésinterprètent certaines pratiques, certains usages, les trouvent problématiques, alors qu'en fait, ils ne le sont pas forcément.
Alors oui, il y a de toute façon un décalage générationnel, mais ça, il y en a de toute manière avec tous les parents de toutes les générations et tous les enfants. Et il y a une espèce de projection de se dire, mais nous, à l'époque, on jouait à Mario, c'était bien, maintenant, c'est Fortnite, c'est pas bien. Et je caricature, hein, mais c'est un peu ce que j'entends. Et c'est pour ça que ce fossé intergénérationnel, il a tendance à se combler, puisqu'effectivement, on a forcément les parents de demain, c'est les joueurs d'aujourd'hui, donc forcément, à mon avis, ce fossé-là va continuer de se tasser, mais je pense qu'il y en a un autre qui va se créer ailleurs, à un autre moment. Et surtout, on a aujourd'hui des outils qui permettent de lutter contre ce fossé, puisqu'aujourd'hui, il suffit, même si on n'est pas du tout joueur, même si on n'y connaît rien, il suffit de taper le nom du jeu dans Google, dans YouTube, et on a des images, ou sur Twitch pour les gens qui streament justement, qui diffusent les parties en ligne. Donc on a accès au contenu des jeux, c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec les jeux vidéo aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans par exemple. Donc c'est une question de représentation aussi. Et puis aujourd'hui, on peut trouver des joueurs à n'importe quel type d'âge, puisque aujourd'hui le développement du smartphone a fait que tout le monde a potentiellement du jeu vidéo dans sa poche. On a des gens qui sont beaucoup plus âgés que les adolescents dont on parle beaucoup, qui jouent aussi, qui parfois même jouent au même jeu, mais dont on parle forcément moins, puisqu'on est toujours inquiet pour les adolescents. Mais c'est toujours intéressant, quand je travaille avec les familles, de prendre en considération les points de vue de tout le monde. C'est-à-dire, je demande aussi aux parents, et vous avez quoi comme écran? Et vous faites quoi avec? Et puis, on voit par exemple que Instagram, les parents y sont aussi, mais ils ne vont pas l'utiliser de la même manière que leurs enfants. Et puis, dernièrement, j'ai eu une ado qui disait « Mais maman, tes stories, il faut que tu arrêtes, là, c'est trop la honte. Arrête les stories. » Et puis, donc on voit qu'il y a des utilisations numériques chez tout le monde, mais pas forcément les mêmes ou de la même manière.
Et comme l'ont souligné Cindy Gregero et Nolwenn Buller, est-ce que vous avez remarqué que la mère assume un rôle que le père lui laisse volontiers, celui de faire un peu la police la police numérique? Est-ce que vous voyez une manière de s'inquiéter genrée chez les parents?
Oui, alors tout à fait. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure où c'est quasiment dans tous les cas la maman qui m'appelle d'abord. Mais ça, il faut savoir que c'est assez courant dans les démarches thérapeutiques. C'est-à-dire même mes collègues qui ne travaillent pas du tout sur ces thématiques-là, enfin sur ces thématiques numériques, ils sont face à la même constatation. C'est régulièrement les mamans qui appellent, qui sont le déclencheur, et puis les pères suivent derrière. Et là, il y a un rôle à faire, justement, qui rejoint ce que tu disais avant aussi, c'est de voir comment on peut amener les mamans à dire, mais en fait, vous aussi, vous pouvez jouer, vous aussi, vous pouvez partager un moment avec vos enfants, et puis activer les pères aussi pour dire, voilà, vous partagez aussi le rôle pas sympa de la police.
On a souvent cette impression, c'est une question globale, on a souvent cette impression que les jeux vidéo ciblent plutôt les garçons, mais il y a aussi plein de jeux vidéo qui ciblent explicitement les jeunes filles. Est-ce qu'on a aussi cet effet inverse de les filles ne veulent pas que des garçons jouent, ou est-ce que c'est plus global? Est-ce que finalement ce côté les garçons ne veulent pas une fille dans leur jeu, c'est plutôt une question d'entre-soi et de comme on voit dans les cours de récréation, les garçons jouent d'un côté, les filles de l'autre?
C'est aussi une question très intéressante. C'est vrai qu'on parle toujours que les garçons critiquent les filles sur les jeux vidéo, mais jamais l'autre sens. Je pense qu'on en prend tellement plein. Je ne sais pas si... j'ai pas assez d'expérience là-dedans, malheureusement, pour répondre au côté critique. Mais oui, les jeux sont très faits par des hommes pour des hommes. Et les jeux faits pour des filles, c'est des Barbies, c'est des coiffeuses, c'est des très, très, très clichés qui font vraiment mal. Mais niveau critique des filles envers des garçons, malheureusement, ça, je ne pourrais pas aider plus. Je ne sais pas si mes collègues pourront...
Ouais, je peux peut-être rebondir un tout petit peu. En tout cas, ce que j'avais pu voir, c'est effectivement que c'est un marché. Donc, on étend le marché en créant des jeux spécifiques pour le public féminin. Donc ça, c'est, voilà, mais qui viendrait du haut et puis qui est plutôt l'idée par des dynamiques économiques. Après, au niveau de l'entre-soi, en tout cas, ce que j'avais pu voir dans le travail de cet étudiant, c'est que les filles, elles réussissaient par exemple beaucoup mieux quand elles étaient dans des dynamiques où elles étaient en solo par exemple, ou en fait quand elles sont dans des équipes mixtes, c'est plus difficile pour elles, alors que quand elles peuvent jouer en solo par exemple, elles s'en sortent mieux. Donc on peut effectivement faire l'hypothèse, et puis si on se base sur ce qui se passe dans d'autres espaces de la société, que l'homosocialité, si on veut, ou l'entre-soi en termes de genre, peut avoir en tout cas un effet protecteur. Et c'est ce qui s'observe aussi dans les cours d'école, hein, mais avec toute le paradoxe de cette non-mixité, hein, qui protège, mais en même temps qui tend à reproduire aussi une différenciation et certaines formes d'inégalité.
Je vais juste aussi encore rebondir. Pour le côté, je viens de penser, vu que nous, en tant que femmes, pouvons facilement se mettre à l'écart, quand on est un groupe de femmes, pour répondre oui, on peut faire la même chose. Genre, vous n'avez pas voulu de nous dans votre jeu, pas de problème. On va faire notre groupe, mais venez pas nous emmerder quand nous, on veut faire notre truc et pour agrandir le groupe. C'est vrai que ça, en discutant avec certaines femmes, certaines peuvent se braquer pour dire non, nous, on a subi ça avec des hommes, on ne les veut pas dans notre groupe, on va rester groupe féminin pour rester avec nos trucs féminins. Et il y avait quelque chose que vous avez dit que je n'étais pas d'accord, mais je ne sais plus quoi.
Ça va revenir.
Oui. Oui, exactement. La mixité fait qu'une femme joue moins bien ou se met en retrait. Ouais. Alors,
c'est ce qui était observé dans le travail là, effectivement.
Oui et non. Ah, mais c'est ça dépend vraiment de l'intérêt de compétitivité de la femme. Comme pour ça, moi, je serais l'inverse. Moi, si je vois un homme qui veut faire son fort, pas de souci, je vais te suivre. Je vais t'exploser s'il le faut. Tu iras pleurer plus tard. Et j'aurais plutôt envie de me surpasser, justement, vu que c'est un domaine très masculin, pour montrer, mon coco, t'inquiète, je suis là. Je peux en imposer autant que toi. Et c'est pas parce que je suis une fille que je peux moins bien jouer que toi.
Ça, c'est dans l'envie. Mais après, c'est vrai que visiblement, en tant que femme, on est quand même plus exposée.
Oui, bien sûr.
C'était dans ce sens-là.
Oui, d'accord. Alors oui, dans ce sens-là, on peut...
c'est plus difficile, quoi.
Complètement. Avoir peur de se prendre des commentaires. Voilà. Donc, on va peut-être se mettre plus en retrait. Mais oui. Certaines d'entre nous, on s'impose.
Une question.
Plutôt peut-être une remarque déjà au début. C'était déjà comme ça au début des années 2000. Par exemple, quand on était sur des chats de discussion en ligne, les femmes et les hommes n'allaient pas sur les mêmes chats. Les hommes allaient sur quelque chose de plutôt technique, sur IRC, des choses comme ça. Et les femmes allaient sur quelque chose d'autre, sur MSN ou comme ça. Mais on ne se mélangeait pas déjà à ce moment-là. Aussi de quoi on parle et tout. Puis on le voit aussi très bien aujourd'hui, par exemple, si on va sur 4chan ou sur des sites comme ça, il y a vraiment une séparation entre les hommes et les femmes. Ça se mélange, mais ça ne se mélange pas beaucoup comme ça. Après, pour une question, moi, plutôt une question sur les réseaux sociaux et Internet en général, sur l'utilisation. Les femmes... elles ont quand même tendance à plus aller lire des choses que les hommes. Les hommes, c'est beaucoup quelque chose de rapide et les femmes passent plus de temps sur une même page Internet. Mais est-ce que ça vient plus...
C'est votre impression ou c'est ce que vous observez ou bien
c'est plutôt ce que j'observe et puis ce qu'on voit en général. Est-ce que ça vient plutôt du fait que c'est... de commencer au niveau neurologique par rapport entre l'homme et la femme. On sait que la femme, elle est plus tournée vers le social que l'homme, elle est plus sur le manuel. Alors, est-ce qu'il y a un rôle aussi là-dedans dans le numérique ou non ?
Je vais peut-être rebondir sur cette question qui pose la question des différences. Peut-être un premier... un premier message que j'aimerais donner, c'est qu'on parle d'hommes et de femmes là, dans cette discussion, comme si c'était des sortes de catégories abstraites, homogènes, voilà, comme si les garçons ou les filles... Voilà, voilà. Ce qu'il faut... Alors, je vais répondre à ça en deuxième temps. Ce que je voulais juste dire d'abord, c'est effectivement que c'est, on en parle comme si c'était des groupes bien déterminés en soi, alors que ces groupes-là sont justement pas du tout homogènes et qu'il y a une grande variabilité à la fois à l'intérieur du groupe des garçons et d'intérieur des filles, à plein de niveaux, que ce soit en termes d'expression de genre, de construction de l'identité sexuée, de sexualité, etc. Maintenant, au niveau de la différence biologique ou sociale, effectivement, les études de genre se sont beaucoup intéressées à ces différences-là en raison du rôle qu'elles jouent dans la reproduction de certaines inégalités. Mais y a des grands débats à savoir si ces différences sont biologiques ou sociales. Les études de genre, elles essaient plutôt de montrer à quel point elles sont... À quel point elles sont socialement plutôt construites et non pas biologiquement déterminées. C'est pas parce qu'on naît avec un sexe de petite fille ou de petit garçon, et encore là il y a plus de continuum que ce qu'on pense, que forcément on va être dévoué aux autres et qu'on voudra absolument des enfants et qu'on n'a aucune compatibilité. Voilà, donc ça c'est un point important. Après, l'exemple du cerveau, il est intéressant parce que ce qui a été montré, c'est qu'il y a une très grande plasticité cérébrale. Donc si ces différences-là ne sont pas innées, tous ces processus de socialisation, de fabrique des garçons et des filles, c'est montré aussi que ça développe, effectivement, ça incite les individus à développer, enfin, qu'il y a certaines zones de leur cerveau qui deviennent plus développées. Par contre, que ce n'est pas irréversible, ce n'est pas fixé. Si on entraîne les individus différemment, c'est-à-dire qu'on les... par exemple, qu'on les met dans des conditions différentes, ils sont tout à, enfin, leur connexion se développe autrement. Donc non, on ne peut pas expliquer ces différences que vous observez en termes biologiques, même si la biologie, évidemment, joue aussi un rôle là-dedans.
Mais sans légitimer ces différences, on a bien compris que l'enjeu, il est là. Est-ce qu'on les observe, rien que ça ? Sans se poser la question d'où elles viennent, si elles sont essentielles ou non, construites socialement, mais est-ce qu'on les observe ? L'homme va aller plus rapidement, il va zapper, la fille, elle va s'intéresser un peu plus au contenu. Enfin, ça, c'est des choses qu'on observe ou pas ?
Vous voulez répondre ? Ouais. Bon, alors de nouveau, moi, j'ai pas de réponse directement pour le digital dans le sens où c'est clair qu'aurait bien pu sûr répondre plutôt à ça finement. Mais bien sûr, toute la société est organisée de façon binaire, et de sorte à reproduire ces différences-là et à maintenir la croyance que ces différences-là, elles sont effectivement essentielles. Et vu qu'on est façonné, on est fabriqué, on répond à des injonctions, à des normes qui, voilà, pour se comporter comme un garçon, comme une femme, on est, voilà, oui, ça, forcément. Ça a des effets sur les pratiques et peut-être bien que les femmes vont au final utiliser les réseaux sociaux de façon... Mais il faut, je dirais qu'il faut faire attention à pas trop... vous avez posé cette question au début, est-ce que c'est nos visions, est-ce que c'est notre stéréotype qui nous font voir ces pratiques-là avec une certaine lumière ? J'aurais envie de dire qu'il faut faire attention à pas trop réifier ces différences et plutôt aller voir ce qui se passe dans les pratiques, parce que généralement, il y a beaucoup plus de nuances et de variabilité que ce qu'on peut imaginer. Voilà.
Du coup, si je peux ajouter une remarque aussi, c'est... En fait, les espaces numériques, que ce soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux, fonctionnent comme des espaces transitionnels. C'est un concept psychologique qui est assez connu, c'est-à-dire c'est des espaces dans lesquels on teste des choses qui vont nous permettre de passer d'un espace à l'autre, donc d'un état à l'autre. Donc on est en transition. Les enfants utilisent ça tout le temps, puisqu'ils mettent en scène la vie des adultes dans leur jeu d'enfant. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enfant, je regarde papa et maman, ils font comme ça, ok, donc on va jouer... à papa et maman, où on va jouer à l'épicerie, par exemple. Donc ça veut dire que les enfants rejouent les comportements des adultes pour comprendre comment ils vont devenir des adultes plus tard. En fait, les espaces numériques fonctionnent comme ces espaces transitionnels puisqu'ils permettent de tester des choses sans encourir les risques réels. La force d'un espace transitionnel, c'est que si la situation devient trop dangereuse, trop risquée, entre guillemets, on peut sortir du jeu. C'est-à-dire si les enfants qui jouent à un papa et maman, au bout d'un moment, s'ils ne savent plus comment, quelle serait l'étape suivante, bah, ils peuvent changer de jeu. Donc, ça n'a pas de conséquences. Le numérique, à ce moment-là, peut servir d'espace transitionnel pour expérimenter des situations auxquelles on n'aurait pas accès dans notre état actuel. C'est-à-dire que, justement, on pourrait avoir des adolescents qui s'interrogent sur comment les filles, ça fonctionne, comment les garçons, ça fonctionne, et donc avec des comportements initiés, justement, de manière, appris de manière sociale, OK. Mais à ce moment-là, le numérique et les salons de chat dont vous parliez avant servent aussi à infiltrer l'équipe adverse, entre guillemets, pour dire en fait comment les autres ils fonctionnent, comment je vais pouvoir ensuite aller aborder une fille en vrai ou un garçon en vrai. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque sur un forum, je ne sais pas, ou même dans un jeu vidéo, je ne sais pas qui est la personne que j'ai en face, ça nous permet justement de tester des bouts d'identité qu'on ne pourrait pas incarner dans notre quotidien puisqu'on a des conséquences qui sont beaucoup plus directes. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir comment ces espaces-là modifient notre façon d'interagir avec autrui.
D'où certains décalages, des retards, des vitesses différentes entre les mondes numériques et le monde réel. On va parfois plus vite en numérique qu'en réel.
Oui, et c'est pour ça que moi, je milite pour une complémentarité. C'est-à-dire que absolument pas bannir le numérique, puisque c'est une réalité de notre société, mais d'encourager surtout les plus jeunes à avoir une complémentarité, de favoriser des activités numériques quand on en a besoin. Un jeu vidéo, ben, c'est une activité numérique, mais à côté, qu'il y a aussi d'autres choses à faire, et qu'on puisse faire des ponts entre les deux. Dire, ben, OK, qu'est-ce que tu as expérimenté dans le jeu ? Maintenant, je comprends mieux ce qui t'intéresse dans ce jeu-là. Comment est-ce que je peux te proposer un truc qui n'implique pas forcément un écran, mais qui fait appel aux mêmes mécaniques, aux mêmes réflexions, aux mêmes processus ?
Oui, j'ai une question globale. Ce serait une question dans le sens, est-ce que c'est toujours approprié de parler de vraiment jeux pour filles et jeux de garçons quand on parle de jeux pour un peu plus, personnes un peu plus âgées, dans le sens où je vois pas mal de jeux qui sont très ciblés public niche, donc des jeux du genre Léa Passion, des trucs beaucoup plus, j'ai un peu cette vision du marché qui fait la même chose avec les jouets pour filles en rose et les jouets pour garçons en bleu. Mais à partir de certains âges, j'ai l'impression quand on arrive dans l'adolescence, vu qu'on commence à jouer à des jeux en ligne, on a beaucoup plus d'avatars variés, on a beaucoup plus d'histoires variées. Et encore plus actuellement, quand on parle de jeux solo, il y a de plus en plus d'histoires qui sortent avec des personnages féminins forts, avec des personnages masculins un peu plus sensibles. Et même les derniers chiffres que j'ai regardés, c'était pas mal souvent les personnages masculins sensibles qui avaient plus de succès que les gros bourrins dont on avait l'habitude de voir. Je pense que le meilleur exemple que j'ai, bon, pour ceux qui connaissent, le dernier jeu qu'ils ont créé sur God of War, c'est un jeu ultra bourrin avec un homme ultra viril. Ils ont essayé de le faire beaucoup plus sensible et montrer dans la psychologie du personnage. Et le dernier jeu où j'ai joué avec une héroïne assez forte, c'était Horizon Dawn Zero. C'est deux énormes succès où on voit que la tendance est un peu... J'ai un peu l'impression que ça se polarise de moins en moins. Donc est-ce que c'est toujours adapté de parler de cette manière-là ?
Alors oui, ça c'est vraiment un gros point qui avance. On a fini les Tomb Raider, Lara Croft... très sexué pour un jeu de garçon qui doit, pour expliquer en gros ce qu'est Tomb Raider pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est on incarne un avatar féminin, une aventurière qui doit découvrir des mystères archéologiques et bien sûr le personnage a des belles formes et bien gaulé, ce genre de choses. Bien sûr, puis elle doit bien sûr se trimballer de branche en branche et de manière très subtile. Donc oui, pour parler de l'évolution des jeux vidéo, heureusement on part vers une égalité. Comme disait Niels au début, il y a vraiment des jeux très intéressants avec des personnages féminins qui deviennent intéressants. Parce qu'avant, oui, il y avait des jeux avec des personnages féminins, mais ça restait très la potiche de base ou le personnage qui n'était pas très intéressant, qui était juste là pour être là physiquement. Et maintenant, ça commence à s'avancer. La même chose pour les personnages masculins. Ça fait du bien de voir autre chose que des hommes gros moins tapés. Hein, de voir, comme l'exemple de God of War, de voir... pour résumer l'histoire, c'est aussi l'histoire d'un père qui va avancer avec son fils, de voir qu'un homme peut avoir des sentiments, très typés féminins, pour rester dans les clichés, tout genre de choses. Et heureusement, tout ce qui est cliché, les barrières tombent gentiment. Et ça aide à avancer et à ouvrir les jeux. Je pense aussi aux filles. Ça pouvait être une barrière à l'époque, de devoir jouer une fille super bien gaulée. C'est pas forcément très passionnant. Voilà.
Mais votre impression, c'est que ça évolue aussi avec l'âge. C'est plus on grandit et plus les jeux sont heureusement complexes.
Exactement. Il y a une espèce de complexité qu'on essaie d'instaurer. Puis justement, pour l'histoire, pour ce que expliquait, c'était cette idée de vouloir raconter une histoire, ça force un peu de neutralité, je dirais. Si on veut vraiment raconter une vraie histoire, quelque chose de bien construit, on ne peut plus s'arrêter à, voilà, on est des gros bourrins, on tape partout, les hommes, ça bombe les muscles, et les femmes, ça reste juste à rien faire à côté. Il y a des personnages qui se lèvent, il y a des personnages qui ont envie de parler aussi. C'est toute cette idée derrière qu'avec l'âge, quand on veut raconter une vraie histoire, peut-être qu'on est obligé de rentrer dans quelque chose de plus neutre. Et là où les jeux en ligne, c'est la même chose, on n'a pas de vraie histoire, donc au final, on est obligé d'incarner directement des avatars, donc pas tellement le temps de façonner cette bipolarité.
Est-ce que ce n'est pas le risque pour un public plus jeune de devoir trop simplifier le narratif et du coup de tomber dans des clichés ? Et que quand on s'adresse à un public plus averti, plus âgé, on peut aller plus dans les nuances ? Est-ce que vous constatez aussi une évolution de la complexité des jeux selon l'âge du public cible ?
Oui, et je pense que ça rejoint ce que monsieur disait avec la thématique des jeux où les Legos pour les garçons, les poupées c'est pour les filles, puis qu'on est en train de sortir heureusement de ce cliché-là. On voit aussi que c'est la même manière, les jeux qu'on propose aux petites filles et aux petits garçons répondent aux mêmes catégories. Est-ce qu'on se dit, ah, c'est un jeu tout mignon, c'est pour les filles, il faut de la rapidité donc c'est pour les garçons. Non, ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport. Donc c'est de nouveau une réflexion à avoir sur comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on réfléchit la place que prennent les écrans dans la famille. Ça passe aussi par quel genre de jeu je propose à mes enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, même très jeunes, des 7 ans, dès 7 ans, qui choisissent eux-mêmes tous les jeux auxquels ils jouent. C'est-à-dire qu'ils ont accès au téléphone de leurs parents et puis ils installent des jeux, ils les désinstallent. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut avoir un regard parental aussi, de se dire, mais en fait, ce jeu-là, est-ce qu'il est intéressant dans ses mécaniques ? Parce que, en plus d'avoir des jeux, pendant longtemps, on a eu effectivement des jeux très typés, comme monsieur parlait de Léa Passion, c'était des jeux dans lesquels on dirigeait Léa qui devait élever des chevaux, s'occuper du jardin, enfin des trucs hyper, non seulement hyper clichés, mais ensuite, en plus de ça, hyper nul. C'est-à-dire que le jeu lui-même n'était pas intéressant. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est au niveau des mécaniques de jeu. Comment est-ce qu'on propose des jeux qui sont intéressants ?
Nolwenn Buller, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'on interdise aux jeunes filles de s'occuper de chevaux et puis de s'occuper d'un bébé ? C'est quand même pas interdit non plus d'incarner l'image peut-être rétrograde de la femme, si ça plaît aux jeunes. Est-ce qu'on ne risque pas de basculer dans l'autre sens, y compris dans le domaine numérique ?
Non. Non, mais je pense que le but, c'est de créer des possibles. Ce serait que le plus de possibles qu'on peut imaginer, y compris pour les garçons, y compris pour les filles. Et pour rebondir sur la question de l'âge, je trouvais que c'était un point intéressant, parce que j'ai l'impression que, après vous me direz votre avis, mais moi j'ai l'impression que, en tout cas au niveau de l'enfance et de l'adolescence, c'est vraiment dans ces années-là que la construction qu'on observe, la construction de l'identité sexuée, et c'est dans ces moments-là aussi qu'on fabrique justement que les normes de genre sont extrêmement différenciées, alors qu'on peut faire l'hypothèse qu'à l'âge adulte, ça se déplace dans d'autres espaces, et du coup ça permet peut-être plus de flexibilité au niveau du jeu vidéo, quoi. Voilà, c'est une...
J'avais vu une enquête très intéressante et par rapport à tout l'ensemble de cette question revient très souvent à l'éducation, aux clichés que nous avons, qu'on nous a inculqués dès la naissance. Pour moi, un garçon qui joue à Léa Passion, ça ne me choque pas du tout. Mais pour le papa qui va être derrière, il va se dire, attention, mon fils joue à un jeu, il va incarner un personnage féminin. Donc Léa Passion... J'y ai joué, ça me fait rire. Oui, c'est ça, je pense que c'est les mentalités des parents, de tout le monde, de se dire que mon fils joue à un jeu de chevaux ne doit pas poser problème. C'est, je pense que c'est cette ouverture-là qu'on doit gentiment se diriger et ne pas se dire que c'est un jeu de fille, un jeu de garçon. C'est ça qu'on a besoin. C'est mon point de vue, hein. Je suis très ouverte là-dessus et malheureusement, encore beaucoup de personnes sont très figées dans des cases et le fait de libérer, d'ouvrir ces cases empêchera ces jeux, disons, typés, ciblés et très bloquants. Et j'avais vu une étude américaine qui mettait justement un petit enfant, il avait quoi, 3-4 ans dans une pièce avec plein de jouets, une dinette, un camion de pompiers et plein de jouets différents, filles, garçons mélangés. Et il laissait la maman avec le petit pendant 5 minutes. Le papa sortait, il laissait l'enfant jouer. Le réflexe de la maman, elle voit son petit garçon jouer à la dinette, pas de problème, il va apprendre à faire la cuisine, il va apprendre d'autres jeux. La même chose après avec le papa. La maman sort, le papa reste dans la pièce. Là, le petit garçon se déplace vers une poupée. Ah non, mon petit garçon, il ne pourra pas jouer avec la poupée, c'est un jeu de filles. c'est pas pour toi ça. Tiens, regarde, un camion de pompiers, vroom vroom, regarde. C'est vraiment les mentalités qui doivent évoluer dans ce sens-là. Et pour les jeux, c'est la même chose. Maintenant, heureusement, c'est moins typé. Et s'il y a des jeux qui sont aussi très sexués, filles, qui sont pour filles, on a un choix qui s'ouvre, mais qu'après, c'est les parents qui doivent leur donner le choix aux enfants et pas l'imposer. Et pour l'instant, j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est que les parents imposent à leurs enfants sans forcément les laisser se diriger vers leurs choix et leurs attirances.
Merci.
Oui, je voulais juste préciser une petite chose, c'est que par rapport à ce que je disais avant, c'est que un jeu dans lequel on s'occupe d'un cheval, c'est pas une mauvaise chose. Un mauvais jeu dans lequel on s'occupe d'un cheval, ça c'est un problème. Et bon, beaucoup de jeux qui ont été typés filles, quelque part, c'est comme si on se donnait pas la peine de faire un jeu abouti jusqu'au bout parce que oh, c'est le public des filles, c'est pas grave. Mais faire un bon jeu dans lequel on s'occupe d'un cheval, il y a aucun problème. Il y a des très bons exemples comme les Sims ou Nintendogs chez Nintendo qui mettaient en scène justement où on s'occupait d'animaux et qui étaient des bons jeux. Il y avait des mécaniques intéressantes. C'est ça qui à mon avis, on doit faire bouger, c'est comment on propose des mécaniques intéressantes et pas le contexte du jeu lui-même.
Ouais, je peux juste nuance importante. Madame, vous avez une question ?
Je ne sais pas, je crois que Madame Buller, elle voulait dire quelque
Pardon,
chose.
Pardon, désolée.
Oui, non, rien. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, c'est les compétences que le jeu permet de développer. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'était par rapport au fait que les filles, elles ont généralement plus de marge de manœuvre pour jouer à une diversité de jeux, beaucoup plus que les garçons. Et en fait, les garçons, ils sont beaucoup plus restreints dans leurs choix et soumis à des normes de masculinité beaucoup plus grandes.
Oui, j'avoue, j'ai parlé de petits garçons qui se faisaient rediriger par son père. Mais c'est vrai que là, c'est bien des domaines où les filles sont plus libres. On laisse le choix à la fille de jouer avec un casque de pompier plus facilement qu'un petit garçon. C'est vrai que c'est
ce qui se passe, pas seulement dans le jeu vidéo, au fait de façon plus générale.
Oui.
Il y a dans l'enfance une sorte de plus grande marge de manœuvre, mais qui reflète au fait la plus grande valeur qui est accordée au masculin.
Voilà, au fait. Exactement.
Niels Weber, j'étais malheureusement pas là quand on vous a présenté, mais si je comprends bien, vous recevez souvent des appels de parents désemparés. Ma question, on a vu, il y a des bons jeux, entre guillemets, et des mauvais jeux. Et souvent, ceux auxquels on a le plus vite accès aux jeux vidéo, c'est par les canaux de la pub, je peux m'imaginer. Est-ce que souvent vous remarquez que j'ai l'impression que cette catégorie de jeux, les parents sont très désinformés ou sont très peu informés plutôt, et qu'il n'y a pas forcément pas seulement une recherche de comprendre la passion de leur enfant, mais aussi qu'ils sont désemparés.
Oui, et il y a une immense pression sociale avec laquelle il faut calculer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une pression sociale sur les plus jeunes pour avoir accès le plus vite possible aux écrans, mais il y a aussi une immense pression sociale sur les parents, justement, pour se tenir informés, pour savoir comment poser des limites. Est-ce qu'on dit oui ou non ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'avoir des enfants qui insistent, ça peut être pénible, donc on se dit OK, c'est bon, on lâche, c'est bon, on lui achète son téléphone, mais en fait, c'est à ce moment-là que le vrai problème commence. C'est là qu'il va falloir justement s'intéresser au jeu auquel il ou elle joue. Et oui, il y a un immense travail d'information à faire, mais finalement, c'est... Aujourd'hui, on l'a dit avant, le jeu vidéo, c'est un marché, c'est une industrie qui est juste gigantesque. Et comme n'importe quelle autre industrie, on doit se poser des questions sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est assez bon pour ça, c'est-à-dire qu'on se pose plein de questions sur ce qu'on mange, sur d'où viennent nos produits, on favorise le local, etc. Finalement, on peut se poser les mêmes questions avec le jeu vidéo. Aujourd'hui, se renseigner sur un jeu, ça prend du temps, c'est un effort qu'il faut faire, mais c'est pas très compliqué, justement. Il y a des moyens de le faire en tapant le nom du jeu, comme je disais avant, dans YouTube, dans Google, ça permet d'avoir des infos sur le jeu. Mais aussi, d'avoir un peu un regard sur qu'est-ce qu'on nous propose. Forcément, si vous baladez sur une plateforme de téléchargement d'iOS ou Android sur les téléphones portables, vous avez des milliers de jeux et c'est impossible de savoir qu'est-ce qui est un bon jeu là au milieu, à moins d'aller se renseigner et puis vraiment prendre du temps pour aller chercher le jeu qui est pertinent. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? En tant que parent, vous prenez votre téléphone, vous voyez, tiens, il y a Iron Man. Bon, Iron Man, je connais, je l'ai vu au cinéma. Tiens, prends Iron Man, c'est connu. Et généralement, ces jeux-là, sont parmi les pires, parce que justement, il n'y a pas de mécanique intéressante derrière, c'est juste une vitrine publicitaire pour vous glisser après de la pub pour d'autres produits, etc. Donc, c'est un effort. Et c'est là où, à mon avis, c'est aujourd'hui une question de société, de réfléchir comment on réfléchit ce qu'il y a sur nos écrans et comment on accompagne ça. De prendre du temps, de dire, bon, ok, si je considère que les écrans ont leur place dans ma famille, comment est-ce que j'accompagne ça et comment je prends le temps de pas juste donner mon téléphone, mais vraiment dire, ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce que ça répond à votre question ?
Oui, je m'interroge aussi sur les exemples que vous avez donnés de quand vous vous êtes rendu compte en fait que le papa y jouait aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de tabou autour du jeu vidéo ?
Parce oui.
Justement à cause de ça.
Ouais. Mais alors clairement, justement, c'est aujourd'hui quand je demande aux élèves dans les écoles qui est-ce qui joue et qu'il y a pratiquement tout le monde qui lève la main, quand je leur demande qui est-ce qui parle de jeux vidéo à la maison, les mains elles redescendent parce qu'ils disent mais mes parents ils comprennent rien, ça les intéresse pas, ils ont pas le temps. Et pour moi c'est trois raisons qui sont tout à fait légitimes de pas avoir un intérêt pour le jeu vidéo. On n'est pas obligé d'aimer le jeu vidéo. Par contre il n'y a pas d'espace dans lesquels ces jeunes, ces enfants, ces ados vont pouvoir verbaliser ce qu'ils vivent quand ils sont face à un écran et pouvoir petit à petit aussi prendre du recul par rapport à leur pratique. Ils sont dans une frénésie du jeu, de l'excitation du jeu. Ensuite on en parle à l'école, ah t'as vu ce jeu là, ben ok on y joue aussi. Et puis du coup on est dans de la consommation de jeu, dans le plaisir de jouer, mais il n'y a pas d'espace où on prend du recul par rapport à ça. Donc clairement, il y a une forme de tabou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec certains papas que je reçois en consultation, il y a un moment donné où ils prennent conscience qu'ils sont plus seulement des joueurs, mais qu'ils sont aussi papas. Et que, par exemple, une fois, un père m'avait dit, mais je me suis rendu compte que je jouais à mon jeu habituel, et tout d'un coup, j'ai vu mes enfants, en fait, ils sont sur le canapé, puis ils regardent ce que je fais. Alors, il y a un chouette moment d'échange entre eux, mais il s'est rendu compte que le jeu auquel il joue d'habitude, ce n'est pas du tout un jeu prévu pour les enfants. Donc à ce moment-là, il a eu le déclic en se disant, mais en fait, maintenant, je suis aussi papa. Donc je dois aussi réfléchir à quoi je joue moi et quel exemple je donne à mes enfants. Et je me garde ces jeux-là pour quand les enfants sont au lit, par exemple.
Est-ce que ça ne brouille pas un peu le message d'entendre que l'école obligatoire vaudoise coupe l'accès au téléphone pour chaque élève durant les heures scolaires? Est-ce que ça n'incite pas les parents à se désintéresser, à se méfier de tout ce qui concerne les écrans, à être encore plus restrictifs, même si la mesure vaudoise est peut-être intéressante? À l'usage, à l'interdiction, comment limiter, comment...
Oui, alors pour remettre dans le contexte, dans le canton de Vaud, depuis cette rentrée, toutes les écoles publiques ont reçu la directive d'interdire les téléphones et autres objets connectés dans l'enceinte de l'école. Donc les élèves ont le droit de venir avec, mais ils doivent être éteints au fond du sac. Et ça a fait pas mal polémique, puisque à la fois des adultes, mais aussi des élèves ont râlé, mais en même temps, la phase pilote a montré que ça se passait assez bien. Donc, depuis la rentrée, tous les élèves ont reçu une directive qui est collée dans leur agenda, dans laquelle il y a des conseils à la fois à l'école, mais aussi pour les parents. Et c'est en fait cette dynamique-là qu'il faut retenir surtout, c'est que Internet, ça ne s'arrête pas à la frontière de la maison ni à la frontière de l'école. Internet, c'est partout, les téléphones sont omniprésents, donc du coup, on doit pouvoir réfléchir comment... Enfin, on doit penser comment on réfléchit ça ensemble. Et ce que je trouve intéressant dans cette mesure-là du département de l'instruction publique vaudois, c'est que c'est une mesure transitoire. Le but, c'est d'intégrer les écrans de manière constructive à l'école et de les penser de manière constructive, c'est-à-dire de les voir comme des outils. À un moment où on a besoin d'un écran comme un outil, parce qu'on peut s'en servir de manière constructive, on va sortir le téléphone et on va s'en servir. Mais que, vu que pour le moment, c'est un peu le bazar, l'école a décidé de mettre les choses sur pause en disant d'abord on interdit, mais on réfléchit, puis ensuite on va proposer des mesures adéquates. C'est quelque chose qu'on a vécu aussi au début des années 2000, où en Suisse, l'instruction publique s'est dit « il faut qu'on soit numérique ». Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a mis des écrans, des ordinateurs dans les salles de classe, et voilà, c'est bon, on est numérique, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces ordinateurs? Pas grand-chose, parce qu'en fait, l'outil était là, mais on n'avait pas réfléchi à comment on allait s'en servir, et c'est ça qui est en train de se faire maintenant, en tout cas dans le canton de Vaud, et je crois que, de ce que je sais, dans le canton de Neuchâtel, ça prend un peu la même direction, mais je trouve intéressant... Parce que dans les consignes données aux parents, ce n'est pas écrit « vous devez juste interdire ». Alors, bien sûr, on peut voir un paradoxe, hein, parce que l'école interdit, mais dit aux parents « vous ne devez pas faire que interdire ». Et c'est une mesure qui, pour moi, est très importante, c'est de réfléchir comment on ne se focalise pas uniquement sur l'aspect éducationnel, mais aussi sur l'aspect affectif. Comment est-ce qu'on accompagne dans ces deux dynamiques-là ?
Est-ce que vous voulez réagir sur cette question-là ?
Un petit point éventuellement sur l'aspect ambigu de certaines mesures qui peuvent être prises. C'est un peu un autre exemple, mais que je trouvais intéressant par rapport aux punitions qui sont données aux garçons dans le cas d'échanges de contenus digitaux à caractère sexuel ou comme ça. Au fait que ça avait plutôt tendance à augmenter leur prestige dans la cour d'école et à justement renforcer leur virilité ou des choses comme ça. Et je trouvais intéressant parce que ça montre bien à quel point c'est difficile aussi de penser des mesures, ou l'effet des mesures qu'on va prendre, et notamment en termes de genre. Quoi.
Là aussi, pour rebondir, j'ai aussi l'impression que c'est pour parler réseaux sociaux, les parents, les gens ne sont pas forcément à la page. Les enfants voient des choses sur la télé, sur Internet, pour parler d'applications connues, Snapchat, TikTok, qui sont très connues des jeunes, Instagram aussi, mais moins des parents et moins, même de ma génération, on en entend. Moi, je n'utilise pas du tout TikTok et Snapchat. Et dans les cours d'école, maintenant, j'ai l'impression que c'est énormément ce genre d'application qui est utilisée. Et c'est vrai qu'il y a un manque d'informations qui a été mise pour les parents, pour un peu tout le monde. Les jeunes voient une application cool sur Internet, sur Instagram, se disent, voient une influenceuse qui l'utilise, se disent, allez là-dessus, c'est trop drôle, on fait plein de trucs. Et ils commencent à l'utiliser comme ça. Et c'est vrai que les parents ne voient pas ça. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir, pour sensibiliser, simplement avoir un regard du parent, un contrôle sur le téléphone, savoir qu'est-ce que son enfant fait avec son téléphone pour les réseaux sociaux, et s'intéresser un petit peu plus. Et ça me reviendra.
Question dans l'assistance. Oui. On vous amène le micro.
Bon, j'étais en train de réfléchir à comment formuler ma question, donc elle n'est pas très bien formulée. Vous parliez, bon, on a parlé de différents types de jeux, certains plus entre guillemets pour les filles, certains pour les adultes un peu plus construits au niveau des nuances de genre. Mais vous parliez aussi qu'à l'intérieur même, monsieur Niels, monsieur Weber, vous parliez qu'à l'intérieur même d'un jeu, il y a différents avatars et que les avatars féminins ont des limitations ou des différences. J'ai pas très bien compris exactement quelles limitations c'était, qui sont différentes pour un avatar masculin. Et je pensais à l'influence que ça a sur la construction de stéréotypes par rapport à ce qu'une femme peut faire, que à la fois les garçons, les hommes qui vont jouer à ces jeux vont intérioriser ces stéréotypes, mais aussi les femmes qui, du coup, peut-être vont être déçues en voyant ce genre de stéréotypes et donc décider de ne pas jouer à cause de ça. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des groupes, des sortes de think tanks ou bien des groupes d'action qui soient féministes, d'hommes et de femmes féministes, qui critiquent cela et aillent directement s'adresser aux personnes qui construisent ces jeux qui sont toujours en place, parce que même s'il y a des nouveaux jeux qui proposent des choses différentes, ces jeux-là sont toujours en place et des gens y jouent et intériorisent ce qui se passe là-dessus.
Alors, si je reprends l'exemple que je donnais avant, c'est une très bonne remarque, parce que se focaliser sur ce qu'un personnage masculin ou féminin peut faire, justement, dans un jeu, ça n'a pas tellement de sens, puisque dans la plupart des jeux, ça ne va pas avoir d'impact sur la façon dont on joue. L'exemple que je donnais, c'était un adolescent qui pensait, et à mon avis, c'est faux, c'est-à-dire qu'il avait une fausse croyance, mais peut-être qu'il y a des gens qui jouent beaucoup à Fortnite qui pourront confirmer. Sa croyance à lui, c'était de dire, vu que le personnage féminin n'a pas la même silhouette que le personnage masculin, c'est une cible plus petite, donc plus difficile à toucher, donc j'ai plus de chances de gagner. Donc lui, en tant que garçon, jouait que des personnages féminins parce qu'il pensait qu'il allait être moins facile à cibler par ses adversaires. Mais voilà, à mon avis, c'est faux. C'est ce que je définissais avant comme étant la hitbox, c'est-à-dire en fait la boîte autour du personnage qui définit la zone où on prend des dégâts ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la longue histoire des jeux vidéo en ligne, il y a des tas de jeux qui montrent que en fait, jouer un personnage masculin ou féminin n'a aucun impact. Dans les grandes heures de gloire de World of Warcraft, on pouvait tout à fait choisir un personnage guerrier féminin ou masculin et on avait exactement les mêmes compétences, c'était uniquement une enveloppe visuelle. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est justement de voir comment est-ce que tout d'un coup on a des joueurs masculins qui vont jouer un personnage féminin ou inversement. Et à l'époque, il y avait, ça vaudrait la peine de vérifier si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque de la grande époque de World of Warcraft, il y avait une majorité de joueurs masculins, mais sur les serveurs, on avait un nombre à peu près égal de personnages masculins et féminins. Donc, il y avait une partie des hommes qui ne jouaient que des personnages féminins. Et ça, c'est intéressant de voir comment est-ce que le joueur s'incarne dans cet avatar-là, qu'est-ce que cet avatar lui représente. Et puis, pour répondre à la question de l'intervention du think tank ou autre, j'étais en train de réfléchir, mais son nom m'échappe. Il y a une youtubeuse qui s'est beaucoup mobilisée pour ces questions-là aux États-Unis, avec un nom qui ressemble à Eskian, quelque chose comme ça. Oui, merci beaucoup. Mais Anita Sarkisian, qui s'est beaucoup mobilisée pour justement amener une réflexion, non seulement chez les joueurs, mais aussi chez les développeurs de jeux, pour justement être dans une dynamique plus constructive. Et sa démarche à elle vient d'un gros événement qui a fait trembler la planète jeux vidéo, qu'on appelle le Gamergate, qui... est partie de justement des gros conflits sexistes et qui a fait émerger le problème du sexisme, il existe tout autant dans l'univers du jeu vidéo.
Et c'était quand
2015, je dirais, si je ne dis pas de bêtises. 14, merci.
Wow.
Merci beaucoup. Donc c'est le monde des jeux vidéo, le monde numérique, c'est un reflet de ce qui se passe ailleurs. Et des fois, on peut être déçu de penser que ça va être mieux dans le jeu vidéo, mais en fait, non, c'est pareil partout. Par contre, là où on peut retourner la vapeur, c'est quand on travaille avec des ados, c'est de se servir des jeux et des réseaux sociaux qu'ils utilisent pour dire, mais en fait, comment on va aborder maintenant les questions d'équité, de genre, etc., de manière plus générale. Est-ce que ça répond à votre question ?
En fait, ma question était plutôt dirigée vers Madame Nolwenn Buller. J'ai eu l'occasion de suivre votre cours dans le cadre d'études genre. Et puis, j'ai aussi entendu le discours de Cindy sur sa manière de vouloir s'affirmer dans le monde masculin, dans le prisme du jeu. Et puis, j'ai l'impression, parce qu'à titre personnel, j'ai aussi dû jouer quand j'étais plus jeune aux jeux vidéo, et puis j'ai l'impression que la femme actuelle entre dans une sorte de conflit pour pouvoir s'affirmer, et puis ça déstabilise un petit peu l'homme vis-à-vis de cette situation-là, et puis je ne sais pas qu'est-ce vraiment la solution pour pouvoir être acceptée, ou est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a une manière pacifique de pouvoir s'affirmer, de s'accepter, ou on doit simplement se battre ou rentrer dans un sorte de conflit qui finalement me paraît plutôt néfaste, enfin plutôt négative à mon égard.
Alors, heureusement, pas tous les hommes sont bourrins. Certains sont très ouverts, donc oui, on peut faire ça de manière paisible. Et en discutant avec des joueurs, il y en a des, on parle très souvent des extrêmes, des personnes qui rejettent la femme parce qu'ils sont très machos. Mais une grande majorité des hommes aussi sont très enclins à voir la femme venir dans ce domaine-là. Ils ne comprennent, même certains hommes, quand je leur parle de mon expérience, de ce que j'ai subi, vécu, ils sont choqués. Ils me disent, ah ouais, certains gars, après c'est comme partout. Les hommes sont, il y en a des qui sont plus ouverts à l'égalité, et d'autres moins, et les femmes la même chose. Il y a des femmes qui sont très sexistes, très féministes, et d'autres moins. On parle toujours des extrêmes, mais jamais des hommes qui sont ouverts, des femmes qui sont ouvertes à ce partage commun, qui se disent bah, les jeux vidéo c'est cool, soyons cool tous ensemble, et c'est tout. On parle toujours des extrêmes, mais pas des hommes cool.
Je
je peux peut-être encore rebondir. Voilà, c'est des questions compliquées et complexes parce que ça adresse la question du changement social, d'un certain ordre qui est établi et de rapports sociaux de sexe qui sont, disons, inégalitaires. Est-ce que ça déstabilise les hommes ? Oui et non, j'ai envie de dire, c'est aussi, ça fait aussi partie d'une sorte de rhétorique un peu masculiniste de dire que les hommes seraient très déstabilisés parce que les femmes prendraient trop de pouvoir aujourd'hui. Et je pense que cette rhétorique-là, elle est profondément antiféministe et elle n'est pas fondée, disons, la plupart du temps empiriquement, quoi. Mais oui, effectivement, s'il y a un rapport social inégalitaire avec certains groupes de la population qui sont plus privilégiés que d'autres, forcément, le changement suscite des résistances ou peut en susciter, ou en tout cas... Voilà. Après, de nouveau, il ne faut pas trop réifier dans le sens où déjà, on parle beaucoup de genre, on a parlé un tout petit peu d'âge, mais il y a la question de la classe sociale aussi. Enfin, je veux dire, on est dans une société qui est inégalitaire de façon générale, et ces rapports sociaux inégalitaires, ils sont imbriqués les uns dans les autres, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas opposer toutes les femmes contre tous les hommes. Enfin voilà, c'est aussi une manière très binaire de voir ces choses-là. Et quant à la question des stratégies ou des marges de manœuvre, voilà, c'est complexe. Il y a la grève du 14 juin, voilà, c'était un événement de dimension collective qui peut-être fait bouger certaines choses, mais peut-être pas. Dans l'histoire, on voit que souvent, il y a des sortes de retours en arrière après des moments d'acquisition de droits. Donc, voilà, à voir si ça fait bouger des choses. Puis après, il y a des marges de manœuvre plus individuelles. Ou alors, comme vous le disiez, voilà, au niveau des producteurs, par exemple, de jeux, comme ça, voilà, on peut agir à différents niveaux. Je passe à répondre.
Juste pour compléter, oui, quand je parlais avant, j'étais très rustre pour parler confrontation, mais effectivement, je ne suis pas tout le temps comme ça. Du moment que je vois un homme, je ne vais pas directement lui faire face, ni reviens, je te prends quand tu veux en 1v1 et je t'explose. Bien sûr que non, c'est seulement dans les cas où il y a confrontation et que monsieur veut en faire un peu trop, et il n'y a pas de problème, je peux le calmer. Mais sinon, non, c'est paisible.
On parle d'hommes et de femmes, mais justement, est-ce qu'il y a des personnages dans certains jeux vidéo qui ne sont pas genrés ? Est-ce qu'on est forcément obligé de choisir ? Ou... Enfin, je ne connais pas.
Oui, la piste. C'est des sujets... C'est en ce moment, beaucoup, beaucoup de personnes posent cette question. On a envie d'être sur une ouverture, de ne pas devoir se mettre dans une case. Malheureusement, je n'ai pas d'exemple de jeu vidéo qui ouvre cette possibilité-là.
Dans Super Mario, il y a quand même ces petites boules, ce personnage en forme de boule, je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'est pas du tout genré, il est très sympathique. Mais...
Oui, après ça devient plus des pets que des personnages, des animaux. Donc, oui.
Je ne sais plus le nom exact, mais il y a dans 2-3, je crois que dans Street Fighter, il y a un personnage qui est non-genré.
Oui.
Et il y a 2-3 exemples dans des jeux de plus en plus connus, genre dans Overwatch, où il y a des personnages qui ont une sexualité qui a été annoncée comme étant.
Exactement. Aussi dans League of Legends, il y a un exactement. Personnage qui n'est pas typé. Ouais. Qu'on ne dit pas clairement son sexe, son genre, mais c'est juste le style graphique qui peut orienter. Et la même chose comme tous les jeux comme World of Warcraft, pour les aussi Elder Scrolls, on doit choisir une case, mais on peut configurer son personnage, son avatar, son image, comme on le souhaite. Donc on peut très bien prendre, malheureusement, devoir choisir un genre, mais le designer de manière opposée.
Mais c'est de plus en plus ouvert, et puis c'est en train de plus en plus de s'orienter vers une possibilité dans ce genre-là.
Est-ce qu'il reste encore une ultime question ? Si ce n'est pas le cas, je crois qu'il est temps maintenant de vous remercier déjà de votre attention et de vous remercier surtout de votre contribution. On comprend bien que c'est un monde qu'on comprend de mieux en mieux et qui est mouvant et qui finalement n'emprisonne pas des stéréotypes. rien n'est perdu, au contraire, ça a l'air de, le vent a l'air de plutôt bien tourner, et qu'il y a tout un champ aussi de recherche qui s'ouvre, j'imagine, avec ça, et c'est même souhaitable finalement que des gens s'intéressent, les parents d'abord, mais aussi peut-être les chercheurs engagent encore plus de force dans la recherche dans ce domaine-là, qui finalement prend énormément d'heures par jour à la plupart d'entre nous. Donc on peut dire aussi que le domaine de recherche est énorme, mais qu'il est encore sous-évalué, peut-être pour conclure.
Oui, je profite pour glisser une information peut-être intéressante, c'est que l'Université de Lausanne a ouvert un Game Lab, c'est-à-dire qu'ils ont un laboratoire d'études du jeu vidéo, et fin octobre, il y a 3 jours de congrès à l'Université de Lausanne sur les langages du jeu vidéo, et il y a des gens du monde entier qui viennent présenter des choses hyper intéressantes. Et donc on voit que le jeu vidéo peut devenir aussi un objet d'étude. Donc c'est un appel du pied à l'Uni de Neuch, ouvrez aussi votre Game Lab.
Très bien, merci à tous. Bonne suite de soirée et bons échanges informels.